La violence est nécessaire. Une violence contagieuse, destructrice et qui appuie notre combat. Journal de l'ETA en 1962.
Ans d'histoire. Des deux côtés des Pyrénées, sur une terre qu'ils occupent depuis toujours, les Basques ont résisté à toutes les invasions, aux légions romaines, aux Wisigoths, à la conquête arabe et même à l'armée de Charlemagne dont ils ont massacré l'arrière-garde à Roncevaux. Et s'ils ont accepté l'autorité de l'Espagne, c'est parce qu'elle a longtemps respecté leur autonomie et leur langue, si vieille qu'on en ignore les origines. Mais en 1959, une poignée de nationalistes basques décidaient de passer à l'action armée contre le régime de Franco en créant une organisation, l'Euskadita Askatasuna, Pays Basque et Liberté, dont les initiales ETA sont connues aujourd'hui dans le monde entier. Responsable de l'assassinat de près de 900 personnes, ses méthodes sont si violentes qu'on lui attribue presque tous les attentats commis en Espagne depuis 45 ans, y compris ceux dont elle n'est pas responsable. France Inter, Delphine Simon, le 11 mars 2004.
France Inter. De véritables scènes de guerre en plein centre de Madrid. À 3 jours des législatives, plusieurs bombes ont explosé ce matin vers 7h30. Le bilan est très lourd, il ne cesse de s'aggraver au fil des heures. Au moins 186 morts et 1000 blessés. Le ministre de l'Intérieur espagnol en est persuadé. Ces attentats ont été commis par l'ETA. Le Premier ministre José María Aznar condamne ce massacre. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention dans laquelle jamais il ne prononce le mot ETA.
La completa derrota del terrorismo.
Nous allons en finir avec ce groupe terroriste totalement.
Sin condiciones
nous voulons leur reddition sans no aucune condition. Aucune négociation n'est possible ni souhaitable avec ces assassins qui ont tant de fois provoquer l'horreur dans la géographie espagnole.
Jean-Charles Vidan, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était José María Aznar le jour des attentats de Madrid, il y a 3 mois. Alors, effectivement, jamais il ne prononce le nom de l'ETA, mais enfin, c'est évidemment à elle qu'il pense, on vient de l'entendre, et à laquelle il pense pendant quelques heures comme étant responsable des attentats de Madrid, alors qu'ils ont été commis, on le sait, par des islamistes. Alors, cela dit, Aznar n'est pas le seul à s'être trompé. Vous-même, dans un livre que vous venez d'écrire chez Cheminement, La Manipulation, vous dites qu'au début, on vous a entendu d'ailleurs sur les ondes, vous avez cru que c'était l'ETA à Onde près de Corriche, c'est vrai?
Oui, tout le monde s'est trompé, moi le premier. Enfin, j'avais quelques précautions oratoires, je disais si c'est ETA, mais enfin sur le fond, je pensais très fortement qu'il s'agissait ETA. J'étais en bonne compagnie, puisque effectivement Aznar, le président espagnol, pensait la même chose. Le Lehendakari, c'est-à-dire le président de la communauté autonome basque qui s'appelle Ibarretxe, pensait la même chose. Zapatero, futur premier ministre espagnol, pensait la même chose. Tout le monde désignait ETA. Il y avait quand même un certain nombre de raisons objective pour désigner ETA, à savoir que dans le passé, la police et les gardes civils espagnols avaient réussi d'extrême justesse à éviter des attentats d'une extrême envergure. Pour mémoire, la tour Picasso, 4000 personnes, on a arrêté le commando quelques jours auparavant, 4000 personnes, ça aurait été un an et demi avant les Twin Towers, un attentat épouvantable. Et également le fait de vouloir faire voler en éclats un bateau qui assurait la liaison entre Valence et Ibiza, 1400 personnes. Donc ETA avait la capacité de commettre un tel forfait.
Alors on en parle beaucoup de l'ETA depuis 45 ans, mais finalement on n'en connaît pas très bien les origines. Vous avez écrit aussi un livre sur l'ETA, vous êtes un spécialiste de cette organisation. Vous rappelez que elle est née en 1959, mais qu'auparavant déjà le nationalisme basque existait depuis la fin du 19e avec une organisation, je crois, qui s'appelait le PVN.
Le PNV.
C'est-à-dire le Parti National Basque, c'est ça, ou Nationaliste Basque, qui était dirigé par un certain Arania, hein, c'est ça, qui était passablement une organisation assez xénophobe, hein, luttait pour la pureté de la nation basque.
Là, aujourd'hui, il aurait droit au foudre de la loi Guesso, puisque effectivement, il était xénophobe, il était basque, tout ce qui n'était pas basque n'avait pas droit de citer, et il était violemment raciste. Il est même très étonnant qu'aujourd'hui, le PNV, qui est quand même au pouvoir au Pays Basque depuis quelques années, se revendique d'un tel personnage. Il s'appelait Sabino Arana.
Alors, c'est justement de ce parti, du PNV, qu'est né en 1952, beaucoup beaucoup plus tard, bien après sa naissance, qu'est né l'ETA, enfin en 59, elle est créée en 59, mais avec des jeunes nationalistes basques qui avaient déjà créé un journal qui s'appelait Action, hein, justement, et qui voulaient passer à l'action. Et c'est de ce journal et du PNV qu'est né l'ETA en 1959, Jean Chalvino.
Oui, on va rappeler les circonstances, on est en plein franquisme, et en plein franquisme dur, et le PNV à ce moment-là se trouve en exil, et ils sont, le siège est rue Saint-Gerre à Paris, dans le 16e arrondissement, et sur place, on ne trouve que quelques vieux militants qui n'osent pas dire qu'ils font partie du PNV, et de quelques jeunes qui sont outrés de voir que l'inaction règne, donc ils décident de faire quelque chose, de passer à l'action. Au départ, ils essayent de se brancher sous un angle culturel, voyant que ça donne rien, ils passent carrément à l'action, et l'action, c'est malheureusement l'action terroriste.
Alors c'est d'abord des attentats contre des habitations ou des lieux symboliques au fond du pouvoir, hein, pendant une dizaine d'années. Alors ils sont dans la clandestinité aussi, c'est d'ailleurs pour ça que finalement on ne connaît pas très bien, le grand public ne connaît pas les dirigeants de l'ETA. Mais alors ils passent donc au début à des sabotages, à des attentats, et puis alors ensuite ils passent à une action beaucoup plus violente puisqu'ils commencent à assassiner des personnes. Ça commence pendant l'été 1968 avec d'abord un garde civil, puis ensuite un inspecteur de police, Meliton Manzanas, dont la mort provoque des dizaines d'arrestations et un procès qui s'ouvre à Burgos en 1970 et dont le verdict va provoquer une émotion considérable dans le monde entier. France Inter, Michel Forgite, le 28 décembre 1970.
Burgos, 6 condamnations à mort. 3 des accusés sont même condamnés 2 fois à la peine capitale pour assassinat et délit continu de banditisme. Dès que les sentences auront été paraffées par le capitaine général Reboul, elles seront soumises au général Franco, qui usera ou n'usera pas de son droit de grâce. En ce moment même, place Clichy à Paris, un cortège s'est formé à l'appel de plusieurs organisations de gauche.
Alors Franco, en fait, va gracier les condamnés de Burgos, Jean Chalvidon, mais alors c'est à partir de ce moment-là que la réputation de l'ETA dépasse la limite de l'Espagne. On n'avait jamais entendu vraiment parler d'elle avant 1970, avant ce procès de Burgos.
Oui, un petit rappel historique, Franco est arrivé au pouvoir à l'issue d'une guerre civile qui s'est achevée en 1939, et l'Europe s'était fait à la présence de Franco, qui n'avait pas suivi l'axe allemand et italien pendant la guerre mondiale, donc Franco ne gênait pas. On savait qu'il régnait, que la démocratie n'existait pas, mais après tout, il n'avait pas de volonté hégémonique. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'existaient sur le terrain, au Pays Basque en particulier, des jeunes gens, des gens qui osaient affronter face à face le pouvoir du général Franco. Donc l'ETA, de ce fait, a recueilli une somme de sympathie incroyablement énorme. Mmh. C'est-à-dire que vous faites allusion à ces manifestations. Je me souviens, j'étais à Paris à ce moment-là, et je me souviens que presque l'ensemble des Parisiens avaient manifesté contre ces condamnations à mort des condamnés de Burgos.
Et pas seulement à Paris, hein, dans le monde entier, il y a eu des manifestations. Je crois que le pape était intervenu aussi. Mais c'est vrai qu'au fond, on n'avait jamais entendu parler d'eux, puis soudain, on éprouve de la sympathie pour eux, pas tellement parce qu'ils veulent l'indépendance du Pays Basque, mais parce qu'ils luttent contre Franco, en fait.
C'est ça, ce sont les anti-franquistes, donc ouais. Ils ont droit au respect.
Alors, ils vont aussi se manifester contre Franco d'une manière encore plus spectaculaire, avec un attentat inouï en 1973 contre l'amiral Carrero Blanco, qui était le premier ministre de Franco. Ça, c'est le grand attentat, si je puis dire, de l'ETA.
Oui, et c'est un tournant dans la vie politique espagnole. Carrero Blanco était le bras droit de Franco. On l'appelait l'éminence grise ou la grise éminence. Et on savait que Franco était à l'hiver de sa vie. D'ailleurs, il est mort 2 ans plus tard. Et Carrero Blanco était celui qui devait prendre le bâton, assurer la prolongation du régime franquiste, en contrôlant le futur roi Juan Carlos et donc en poursuivant l'œuvre de Franco. Sa disparition dans un attentat de l'ETA a complètement chamboulé cet édifice intellectuel, puisque en fait, il a contribué à amener la démocratie en Espagne.
Alors justement, Franco est mort 2 ans plus tard, en 75. Et là, d'une certaine manière, l'ETA perd, au fond, le capital de sympathie qu'elle pouvait avoir, parce que non seulement il n'y a plus l'ennemi contre lequel elle se dressait, qui était Franco, mais en plus, le régime qui lui succède, le roi Juan Carlos, les premiers gouvernements démocratiques, vont faire des concessions à l'ETA. On ne comprend plus très bien pourquoi elle se bat. Il y a eu deux concessions importantes. D'abord, une amnistie, je crois.
Il y a eu deux amnisties, dont une complète. C'est-à-dire qu'en 1978, il n'existait plus un seul prisonnier politique sur le territoire espagnol. Et concession, non pas seulement à l'ETA, mais à toutes les communautés régionales, puisque l'Espagne a été, dès lors, divisée en 17 communautés autonomes. Cela veut dire que chaque communauté avait dorénavant son propre parlement, son propre président et des pouvoirs extrêmement détendus, et en particulier le Pays Basque a son président, aujourd'hui il s'appelle Ibarretx, le siège est à Vitoria ou Gasteiz pour parler basque, et ce Pays Basque a pratiquement tous les, sauf se battre monnaie, il a pratiquement tous les pouvoirs.
Là on pourrait croire justement que l'ETA pourrait en être satisfaite, mais pas du tout, Jean-Charles Vidant, puisque l'ETA revendique non pas l'autonomie, même si elle est très large au Pays Basque, mais elle réclame l'indépendance, et d'ailleurs elle appelle l'ETA, les Basques, à voter non au référendum par lequel les Espagnols doivent se prononcer en 1979 pour ou contre une nouvelle constitution. Eux, l'ETA dit non, il faut voter contre, et même elle va pirater à cet effet quelques jours avant le référendum Radio San Sébastien au moment où elle diffusait une chanson.
Lo que nos impone la necesidad de la utilización de la violencia revolucionaria para la conquista de esos objetivos.
Ici la voix de l'ETA. Nous sommes obligés d'user de la violence révolutionnaire pour la conquête de notre liberté. ETA, l'organisation armée pour la révolution basque, demande à tous les travailleurs basques de voter non à la constitution espagnole parce qu'elle ne nous concerne pas.
Porque un no masivo invalidará en Euskadi el contenido de esta constitución en tanto que...
ETA, le peuple est avec toi. ETA, le peuple est avec toi.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'ETA.
Et c'était Errico Festa, la fête au village, une chanson chantée en basque par deux chorales, l'une du Pays Basque et l'autre du Pays Basque français, l'une du Pays Basque espagnol et l'autre du Pays Basque français. Alors, on a entendu tout à l'heure une manifestation disant le peuple est avec l'ETA. En fait, Jean-Charles Vidant, en 1979, 20 ans après sa création, l'ETA n'est plus aussi populaire. La preuve, le référendum par lequel les Espagnols devaient se prononcer pour une nouvelle constitution et donc pour l'autonomie des régions et notamment du Pays Basque. Au Pays Basque, 90% des votants, contrairement à ce que demandait l'ETA, 90% des votants ont voté oui.
Oui, il faut dire que le peuple espagnol, et le peuple basque en particulier, devient exaspéré par les exactions. Ça y est, on est en démocratie, donc on a, tous les partis politiques, toutes les idées ont droit de citer. Donc pourquoi continuer à assassiner ? Et sur le fond, comment accepter que l'ETA exige la création d'un pays imaginaire qui aille de Saragosse, c'est-à-dire en Aragon, loin vers la Castille, qui touche la Castille, et jusqu'à Bordeaux, en incluant Bordeaux. Alors effectivement, en ajoutant des petits bouts de territoire dans tous les sens, on peut parvenir à obtenir un pays qui soit viable, mais c'est une vue de l'esprit. Et c'est contre cette vue de l'esprit et contre cette violence que le peuple espagnol, lors de différents référendums, a repoussé les solutions de l'ETA.
Mais justement, vous évoquez, il y a tout un chapitre dans lequel vous posez la question, est-ce que le Pays Basque existe ? Alors cela dit, les Basques, la nation basque, la langue basque, on ne sait même pas d'ailleurs d'où elle vient, elle existe, mais il y a un Pays Basque français. Là-dedans, dans cette affaire, est-ce que l'ETA avait de l'impact dans le Pays Basque français ? Parce qu'elle s'en est servie, vous le rappelez, beaucoup de bases arrières, de bases logistiques, et beaucoup de membres de l'ETA pourchassés par la police espagnole venaient se réfugier en France.
Oui, deux éléments de réponse. Qu'est-ce que représentent les idées séparatistes au Pays Basque français et au Pays Basque espagnol ? Au Pays Basque espagnol, elles ont grimpé jusqu'à 25% lors de certaines élections. Aujourd'hui, on peut penser qu'elles sont aux alentours de 12%. 12%. Et en France, les idées séparatistes représentent entre 5 et 7%, pas plus. Donc, c'est en voie de disparition, ce genre de choses. Quand, deuxième élément de réponse, effectivement, la France a servi de refuge aux étards pourchassés. Ils s'y sont installés.
Les étards, c'est les membres de l'ETA.
Pardon, oui, un étard égale un membre de l'ETA. Donc, ils s'y sont installés. Certains ont fondé une famille. Ils ont demandé pour la plupart le statut de réfugié politique. Et c'était merveilleux parce qu'à partir de là, ils pouvaient préparer leurs actions terroristes, filer en Espagne, commettre un attentat et revenir se protéger en France. Ils ne risquaient rien. Et puis un jour, le gouvernement de Madrid en a eu assez et Felipe González, le premier ministre espagnol, a rencontré François Mitterrand et tous deux se sont mis d'accord pour instaurer une politique de collaboration policière. Et depuis lors, l'ETA n'est plus le bienvenu en France. Et chaque semaine, les dépêches de presse nous apprennent que des membres de l'ETA sont arrêtés en France.
Vous dites que le gouvernement espagnol, Jean Chalvidan, en fait des gouvernements, il y en a eu de toutes les colorations politiques depuis la mort de Franco. En fait, ce n'est pas du tout contre la gauche ou la droite que s'insurge, que milite et que lutte l'ETA par la violence. C'est contre l'État espagnol, en fait.
C'est clairement contre l'État espagnol, puisque Franco était l'objet de l'ire et de la violence de l'ETA. Mais après ça, il y a eu Suarez qui était centriste, même chose. Après ça, il y a eu Felipe González, socialiste, même chose. Après ça, Aznar, de droite, même chose. Et Zapatero, qui a été élu le 14 mars dernier, a droit également aux flèches de l'ETA.
À partir du moment où l'existence d'une autonomie basque existe, et donc un parlement, il y a un parti aussi, il y a ce qu'on appelle la vitrine politique de l'ETA, qui est Herri Batasuna, qui veut dire, je crois, unité populaire.
C'est ça, oui. Alors là, je suis assez circonspect parce que j'essaye de me mettre à la place d'un jeune Basque qui soit nationaliste. J'adorerais avoir un journal qui reflète mes idées. Or, le gouvernement de Madrid a interdit les deux journaux nationaux, les deux journaux régionaux qui s'appellent Egunkaria et Ekin. Donc, je n'aurai plus de journaux reflétant mes idées. Et à ce moment-là, je me retournerai dans un parti politique qui soit proche de moi, dans lequel je me reconnaîtrais. Le parti existait. C'était tout d'abord Herri Batasuna, qui était la vitrine légale de Théa, en quelque sorte, qui a été transformée par la suite en Batasuna. Et il a été également interdit. Donc la seule solution pour un jeune séparatiste basque aujourd'hui, un peu velléitaire, ce serait de s'engager dans l'ETA.
Et puis alors, il y a, à côté de la vitrine légale, il y a l'ETA clandestine, celle qui va poursuivre, malgré l'autonomie du Pays Basque, qui va poursuivre des attentats de plus en plus violents, cette fois-ci non plus au Pays Basque, mais dans toute l'Espagne, et contre des civils. Il y a eu un attentat terrible à Barcelone qui a fait 21 morts dans un supermarché en 1987. Et puis alors, en 1997, l'attentat de Trost, celui qui va mobiliser contre l'ETA l'immense majorité des Espagnols. France Inter, Frédéric Carbone, le 13 juillet 1997.
L'Espagne ne comprend pas, l'Espagne est en colère et les Espagnols se rassemblent dans toutes les villes du pays depuis hier pour dénoncer les méthodes et les agissements de l'ETA. L'assassinat de Miguel Ángel Blanco, décédé la nuit dernière, a constitué un électrochoc. La mobilisation n'a jamais atteint un tel niveau. Elle est évidemment particulièrement forte à Hermois, la ville de l'otage assassiné. Hermois, d'où nous appelle notre envoyé spécial, Franck Cognard.
Dehors, ils sont 10 000 au moins, massés le long des barrières de sécurité et des banderoles blanches et rouges posées par la police. La foule attendait depuis plusieurs heures l'arrivée du corps de ce jeune homme sans histoire. Des milliers de voix s'élèvent alors dans le minuscule centre-ville. Tous crient « Miguel », puis « Assassin ».
Et c'était l'assassinat de Miguel Ángel Blanco en 1997 qui a mobilisé, on vient de l'entendre, l'immense majorité des Espagnols contre l'ETA. Mais pourquoi, Jean Chalvidan, après tout, cet homme, Miguel Ángel Blanco, n'était pas très connu et ce n'était qu'un attentat parmi les 900 qui ont eu lieu depuis la création de l'ETA?
Oui, c'est bien pour ça. Miguel Ángel Blanco, il avait 29 ans, c'était un petit élu, il était conseiller municipal de la toute petite ville d'Hermua. On ne savait rien de lui. Si il jouait du rock, il était batteur dans une formation de rock, il allait se marier, il était fiancé. Donc il n'était rien sur l'échiquier politique, il ne représentait rien. Donc le peuple espagnol s'est rendu compte que ETA ne s'attaquait plus à des figures autant incontestables que celles dont nous parlions à l'instant, Carrero Blanco, ou à des hommes politiques de premier plan, mais s'attaquait au corps même de la population. Et puis il faut dire aussi que le deuxième élément de réponse, c'est que les circonstances de sa mort ont été particulièrement ignobles, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé dans un fossé agonisant, il avait deux balles dans le crâne. crâne. Il a mis 2 jours à mourir. Et l'Espagne, en direct à la télévision et à la radio, a suivi sa lente agonie. Le résultat, vous l'avez dit, c'est 6 millions de personnes dans les rues. Rien qu'à Bilbao, ville de 600 000 habitants, il y a eu 500 000 manifestants dans les rues.
Puis une émotion aussi considérable en dehors de l'Espagne, notamment dans les journaux français, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, l'émotion est immense en Espagne et dans le monde entier après la mort de Miguel Angel Blanco, donc pris en otage quelques jours plus tôt par l'OTA. Rien n'y a fait, rapporte la correspondante du Monde. La ferveur des longues veillées de milliers d'Espagnols dans les rues, les prières émouvantes de la famille, l'unité de la classe politique ou les appels du pape ont été vains. 50 minutes à peine après l'expiration de l'ultimatum fixé le 12 juillet à 16h, l'OTA a exécuté son otage de 2 balles dans la tête. L'Espagne entière maudit l'OTA, titre Le Figaro. Ce n'est plus une clameur, c'est un soulèvement populaire, écrit Libération. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Nous en avons marre, dit José Ramón, 62 ans, basque nationaliste, routier à la retraite. Miguel Angel Blanco a été élu démocratiquement, dit-il. Sous Franco, nous luttions contre la dictature. Aujourd'hui, c'est fini. Ces messieurs sont en dehors du coup. Et en plus, ils se permettent de parler au nom du peuple basque. Mais c'est nous, le peuple basque. À la radio, rapporte Le Monde, la mère d'un prisonnier de l'ETA a lu une lettre destinée à son fils. Quand vous vous battiez contre Franco, vous étiez contre la peine de mort appliquée à vos compagnons. Mais que faites-vous vous-même aujourd'hui ? Pour Le Monde, l'ETA est délégitimée. Si l'ETA avait voulu se suicider, elle n'aurait pas agi autrement, déclare Charles Lambroschini dans Le Figaro. L'Express aussi parle de suicide et Le Nouvel Observateur de dérive schizophrénique. L'ETA n'est pas seule mise en cause. Eri Batasuna, le bras politique de l'ETA, est aujourd'hui plus isolé que jamais, constate Le Figaro. Eri Batasuna, coupable, est un slogan, le slogan le plus répété par les manifestants en basque. Pour comprendre le phénomène, Marie-France Etchegoin, d'une Nouvelle Obs, s'est rendu dans la petite ville d'Hernani, une des places fortes d'Eri Batasuna. Le maire, un nationaliste modéré, n'hésite pas à parler à propos de l'emprise de ce parti de nouveau fascisme. Lors des grèves générales appelées par Eri Batasuna, les commerces de la ville qui ne tirent pas le rideau sont filmés. Les militants de la paix photographiés pendant les manifestations. Dans les lycées, les élèves qui refusent d'arrêter les cours pour aller au meeting sont menacés. Ils sont devenus fous, dit une ancienne militante de l'ETA des années 70. Dans El País, le quotidien madrilène, le philosophe Fernando Savater, basque non nationaliste, met en garde cependant. Cessons de répéter que ce nouveau crime de l'ETA est absurde, irrationnel. C'est faux. Il a sa logique propre, celle d'une avant-garde militariste butée qui veut nous imposer une dictature.
Et étonnant ces articles, Jean-Charles Vidan, quand on pense à la sympathie qu'inspirait l'ETA 20 ans avant. Là, c'est une l'unanimité contre elle.
Oui, c'est une césure. Le ETA qui avait l'acceptation d'une partie de la population a cessé d'être sympathique à ce moment-là. L'assassinat de Miguel Angel Blanco est un véritable tournant dans l'histoire de l'ETA. C'était le crime de trop.
Et pour quelle raison aujourd'hui, parce que vous dites qu'elle existe encore, vous dites même d'ailleurs que c'est la seule organisation terroriste européenne encore en activité aujourd'hui, il y en a quand même d'autres.
Oui, on peut penser au FNLC, mais l'ETA a tué 825 personnes en 35 ans et le FNLC est plutôt connu pour s'entretuer. Donc ce n'est pas exactement, il y a certains, si vous me permettez l'image, jouent en première division et d'autres en deuxième division. Mais le seul groupe encore en activité activiste capable de tuer, et il l'a prouvé à 825 reprises, c'est malheureusement l'ETA.
Alors justement, il y a encore des militants. Comment se recrutent les gens de l'ETA ? De qui s'agit-il en fait ? Et combien de militants ?
Le profil a changé. Il y a 20 ans, c'était plutôt des intellectuels, plutôt des gens qui avaient fait des études. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui se sont aguerris dans ce qu'on appelle la calle broca, c'est-à-dire la violence urbaine. Ce sont des jeunes gens qui, la nuit, cassent des vitrines de concessionnaires de voitures françaises, qui s'attaquent aux guichets automatiques pour retirer des billets, qui s'attaquent aux autobus, qui s'attaquent aux voitures des élus. Et donc ils s'aguerrissent à la violence urbaine. Et l'étape suivante, c'est de passer la frontière, de rentrer dans un commando qui s'entraîne dans les Landes en particulier. On sait qu'ils s'entraînent là-bas. Et après ça, ils sont mis en réserve pendant quelques mois. On leur donne des consignes de dire qu'ils ont été torturés si jamais ils sont arrêtés. On leur apprend le maniement d'armes, etc. On leur passe toutes les consignes. Et puis, un jour, ils sont envoyés sur le terrain pour commettre un attentat ou pour recueillir ce qu'on appelle l'impôt révolutionnaire, c'est-à-dire l'extorsion de fonds envers les hommes d'affaires basques et de plus en plus de toute l'Espagne.
Combien sont-ils aujourd'hui les membres de l'ETA à peu près?
Jusqu'à il y a 2 mois, je vous aurais donné une évaluation, mais je ne m'étais pas trop trompé. Et l'autre jour, on a trouvé dans des documents qui ont été trouvés sur un des chefs qui a été arrêté, sur Sper, on a trouvé un document disant qu'ils étaient entre 200 et 300. C'est tout. Vous vous rendez compte, 35 ans de lutte, 825 morts, pardon, et seulement 300 personnes, c'est l'un des drames de l'ETA.
Et la sympathie qu'ils peuvent encore éventuellement inspirer aux Pays-Bas, parce qu'on a vu par exemple qu'à l'occasion de cette fameuse manipulation de Madrid dont vous parlez dans un livre, les gens étaient furieux qu'on ait accusé l'ETA, alors qu'elle-même s'était d'ailleurs défendue d'avoir participé à ces attentats, ce qui était vrai d'ailleurs.
Oui, c'est tout à fait vrai, mais il y a toujours au cœur du Pays Basque un vrai sentiment nationaliste, il ne faut pas en faire fi, mais ETA aujourd'hui est en voie de résorption, même si chaque semaine on nous apprend qu'un nouveau commando a été arrêté, en particulier en France, mais à chaque fois de nouveaux jeunes provenant de la violence urbaine dont on parlait revient sur le terrain, et donc tel l'hydre, l'ETA voit repousser ses bras à chaque arrestation.
Au fond, c'est l'histoire d'un échec sanglant. En 45 ans, l'ETA n'est pas arrivé à ses fins et elle n'est plus grand-chose, en fait.
Elle n'est plus grand-chose. Je pense aussi que c'est pour une grande raison, c'est que l'ETA manque de chefs, de vrais chefs charismatiques. Ben Bella, enfin l'Algérie avait Ben Bella, Cuba avait Castro, etc. Et il y a eu un seul grand chef à l'intérieur de l'ETA, c'était Chomin dans les années 80. Il est mort d'un accident domestique et depuis il n'a pas été remplacé. Et c'est peut-être le drame de l'ETA de ne pas avoir un vrai leader.
Merci Jean-Charles Vidange. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de L'ETA, l'enquête, un livre paru aux éditions Cheminement et qui est d'ailleurs le seul livre édité en France sur l'ETA, alors qu'il en existe une cinquantaine en Espagne. Et puis vous avez également fait paraître tout récemment La Manipulation, Madrid 11 mars, ou comment et pourquoi pendant 3 jours on a cru que l'ETA était responsable des attentats de Madrid. Ce livre est également publié chez Cheminement. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, Emmanuel Acherman, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.